Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h21, alors ce soir dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse, je le disais, à la nouvelle folie des paris en ligne qui affiche des niveaux records sur l'année écoulée. Paris sportif, paris hippique et puis le poker en ligne aussi. Depuis l'ouverture à la concurrence il y a maintenant plus de 10 ans, on n'avait jamais autant parié en France. Les opérateurs d'ailleurs se multiplient, on va en parler, et font preuve d'une extrême ingéniosité pour attirer de nouveaux clients. Campagne de pub, application ludique destinée aux jeunes, et ça marche très fort. En un an, on compte plus d'1 million de nouveaux joueurs. Alors comment expliquer un tel essor? À qui profite ce succès? Et comment éviter aussi les problèmes d'addiction? C'est important, notamment chez les plus jeunes. On en parle donc ce soir avec nos invités. Emmanuel de Rohan-Chabot, bonsoir. Vous êtes
bonsoir.
Le président fondateur de Ziturf Zibet. On en parle avec Benoît Elbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de marketing à l'ESCP Business School, auteur de Je consomme donc je suis, aux éditions Nathan. Auteur également de L'obsession du bien-être, notamment aux éditions Robert Laffont. Et puis on en parle avec vous, Amine Benyamina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse et président de la Fédération française d'addictologie. J'ai commencé par vous, Emmanuel de Rohan-Chabot. Une question très simple. Est-ce qu'on peut vraiment faire fortune et gagner de l'argent grâce à ces paris en ligne aujourd'hui?
De qui parlez-vous? Des joueurs ou des opérateurs?
Plutôt des joueurs dans un premier temps. Et puis après, pour les opérateurs, ça, je pense que j'ai la réponse là-dessus.
Non, écoutez, pour les joueurs, on ne peut pas et on ne doit pas espérer faire fortune avec les paris en ligne. Les paris en ligne, c'est une distraction.
Oui.
Point à la ligne. Et par ailleurs, quand vous parlez de paris sportifs ou de paris hippiques, comme vous en parliez en introduction, les sites ne vous promettent jamais. Contrairement au grand tirage de loto ou autre, vous en faisiez d'ailleurs la publicité juste avant votre émission.
Pas moi personnellement, rassurez-moi.
Non, votre antenne, bien sûr. Qui promettent aux joueurs des gains qui leur permettraient tout à fait de changer de mode de vie.
Oui.
Un pari sportif ou un pari hippique, c'est un moyen de se distraire.
Oui.
En espérant gagner, bien sûr.
Oui, c'est quand même la finalité.
Mais c'est pas un moyen de changer de vie.
Mais c'est quand même
surtout
la finalité. On joue parce qu'on a l'espoir de gagner de l'argent. Faites-nous rêver quand même. Les plus grosses sommes qui sont touchées par des petits joueurs, ça peut s'élever jusqu'à combien?
Ça peut s'élever jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais c'est extrêmement rare, parce que ce sont des paris combinés, complexes, qui portent sur toute une série d'événements.
Oui.
Donc il faut avoir raison sur plein de questions, et c'est un événement très rare.
Bien. Et c'est quoi la mise de base pour ces petits parieurs?
Alors la mise de base unitaire, c'est quelques euros.
Quelques euros. Bien. L'idée, c'est de ne pas multiplier les quelques euros, sinon on investit beaucoup plus que ce qu'on gagne. On va en parler, évidemment. Benoît Elbrun, comment se fait-il que cette pratique, depuis un an, est en plein boom? Je redonne les chiffres, hein, 717 000 nouveaux joueurs actifs supplémentaires sur un total de 3,5 millions de joueurs actifs, avec un chiffre d'affaires annuel pour le secteur qui progresse de 22%, qui atteint 1,74 milliard d'euros. C'est absolument colossal. Il y a les paris sportifs. Il y a les paris hippiques, et puis il y a la nouvelle tendance du poker en ligne qui cartonne véritablement. Comment on l'explique ça?
Alors en fait, il y a plusieurs motivations. Hein. Il y a une enquête qui a été faite par l'Autorité nationale des jeux, hein, qui montre que, contrairement à ce que dit monsieur, la première motivation, c'est quand même l'attrait du gain monétaire pour près de 60% des gens. Et j'aurais quand même rappelé, pour que les choses soient claires, que 85% des joueurs ont été perdants dans un pari sportif. D'accord, l'année dernière, et seulement 1,5 joueur sur 10 000 a gagné plus de 12 000 euros, ce qui correspond à 1 000 euros par mois. Mais justement, l'ambiguïté, on va dire, du système, c'est quand même de faire croire aux gens, non pas qu'on va gagner sa vie avec le pari sportif, mais qu'on va avoir un gain, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'aubaine. Après, il y a effectivement la force de l'habitude. Donc ça, c'est une question qu'on va traiter sur l'addiction. C'est-à-dire que quand on rentre dans le cycle, notamment quand on est jeune ou adolescent, c'est très très difficile de s'en sortir, mais ça, monsieur va en parler mieux que moi.
On a des témoignages d'auditeurs et d'auditrices.
Et après, il y a le fait qu'évidemment, de façon plus conjoncturelle, je pense que les gens s'ennuient, qu'ils disent la volonté de se changer les idées par rapport au contexte actuel.
Oui. Mais clairement, pour répondre à ma question, le confinement, les confinements, le couvre-feu, ça a joué aussi sur la multiplicité des parieurs.
Il me semble, parce que le confinement, en fait, crée une situation d'isolement. Et cette situation d'isolement, on le sait, conduit à des logiques addictives, que ce soit l'alcool, la cigarette, ou que ce soit le jeu.
Mais rassurez-moi, c'est pas parce qu'on joue un peu qu'on devient forcément addictif.
Non, mais simplement, je pense que n'oublions pas que le capitalisme, de façon générale, est une machine à fabriquer de l'addiction.
Bien. Ça, c'est un point de vue ou c'est un fait ?
C'est une analyse, mais que je ne suis pas le seul à partager. Il y a plein de philosophes qui ont travaillé sur cette question.
Bien. Amine Benyamina, c'est vrai qu'on observe un boom depuis un an maintenant, notamment sur l'année 2020. Pour vous, factuellement, c'est clairement l'impact du rester à la maison qui a suscité des vocations de joueurs ?
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la définition même de l'addiction. On a les éléments pour avoir des personnes qui finiront addictives. Toutes ne le seront pas. On aura des joueurs, on aura des prises de risques, notamment des risques financiers et peut-être des risques conjugaux ou familiaux. Mais la définition d'addiction, c'est la rencontre entre une personne, un produit, un environnement.
Pardon, vous allez un peu vite. On va en parler de l'addiction, mais avant ça, il y a quand même une notion de plaisir. On peut jouer un peu sans forcément être addictif.
C'est ce que j'allais en train de... On a les éléments actuellement qui expliquent ce que vous avez dit tout à l'heure. Plus d'un million et vous avez signalé depuis un an. Donc, on est derrière nos écrans, on est isolé et donc... On essaie de trouver à la fois des éléments pour casser l'ennui et en même temps des éléments de plaisir parce qu'à l'extérieur, ça ne va pas très bien. Que les choses soient claires, le support numérique est un support qui a rendu intelligents nos jeunes. Ils sont plus intelligents que nous à la même époque lorsqu'on avait leur âge. C'est la vérité.
Plus intelligents.
Absolument.
C'est quoi plus intelligent ? C'est passionnant ce que vous dites.
Évidemment, je veux dire, il y a des outils d'émancipation intellectuelle que vous n'aviez ni vous ni encore moins moi à leur époque. Donc c'est une réalité. Faut pas, il faut pas tirer sur la digitale éducation. Et ça, c'est une erreur. En revanche, il y a des effets pervers comme tout médicament, comme tout sur lesquels on peut réduire les risques. Mais les jeunes, actuellement, ont une capacité cybernétique qui est plus importante que la nôtre à leur époque.
Alors, on va en parler justement des outils numériques, parce que c'est ça aussi qu'a accentué la demande et la facilité avec laquelle on peut jouer aussi et parier en ligne. Poker, paris sportif, paris hippique. Et on verra que dans le paris sportif, maintenant, on peut parier sur absolument tout. A tout de suite, 19h28.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on poursuit le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la nouvelle folie des paris en ligne qui affiche, je le disais, des niveaux records sur l'année écoulée. Et ça continue depuis le début janvier avec les paris sportifs, les paris hippiques et puis le poker en ligne aussi qui séduit maintenant de nouveaux publics et notamment chez les jeunes. Et on est notamment en ligne avec Emmanuel de Ronchabot, président fondateur de The Turf, The Bet, je vais arriver à le prononcer, je le prononçais à l'anglaise. Vous êtes toujours avec nous. On évoquait l'arrivée du tout numérique qui a fait qu'on est passé du bureau de tabac aux applications spécialisées. Est-ce que c'est ça aussi qui a favorisé la démocratisation de ces paris ?
Il y a deux choses. Vous décriviez tout à l'heure, une des raisons de l'essor de l'année dernière prouve à mon avis que pour l'immense majorité des joueurs, le jeu est une distraction. Il faut ramener les choses à leurs proportions. Personne ne niera, et on en reparlera sans doute s'il y a une autorité nationale des jeux qui surveille et qui encadre ce marché, personne ne niera qu'il y ait une frange de la population qui puisse tomber dans l'addiction et sur laquelle on doit être extrêmement vigilant.
On a entendu votre point de vue. Mais sur la numérisation, c'est intéressant parce que vous travaillez sur le secteur, donc j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est ça qui a favorisé aussi la démocratisation du pari en ligne ?
Ah oui, bien sûr. Ce qui s'est passé l'année dernière, si vous voulez, c'est que les distractions se sont extraordinairement taries. On ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller au bar. Et ces jeux sont une distraction. Et l'immense majorité des clients dépensent en moyenne 80 euros par mois. Donc, on est bien dans un budget de distraction. Par ailleurs, quand on a fermé, en effet, les restaurants, quand on a fermé les bars, il y a eu la fermeture d'une immense majorité des points de vente du PMU, en ce qui concerne le Paris Hippique ou de la Française des Jeux. Donc, ça a considérablement accéléré le basculement du jeu physique dans des points de vente vers le jeu numérique. Il y a beaucoup de gens qui jouaient dans des points de vente qui se sont mis à utiliser les applications des opérateurs de paris, quels qu'ils soient. Donc ça a accéléré le basculement, oui, bien sûr.
Mais ces applications, on va pas se mentir, il y a aussi un effort de design, il y a des campagnes de publicité, il y a les partenariats qui les accompagnent, il y a quand même une volonté de séduire notamment les jeunes, Benoît Elbrun. C'est une volonté de la part des opérateurs d'aller chercher de nouveaux clients.
Bien sûr, puisqu'on va aller chercher les gens les plus fragiles. Et sachant que la plupart des jeunes qui déclarent jouer en ligne, en fait, n'ont pas de gains de revenus qui expliquent en fait, le jeu. Oui. Ça veut dire qu'on est dans une logique en fait, d'endettement symbolique. Et ça, c'est une vraie problématique, sanitaire.
On peut parier sur tout aujourd'hui ? À peu près.
Comme en Angleterre, on peut parier sur tout. Oui.
Sur les matchs de foot, sur le match de basket.
Oui. Ou sur la mort de quelqu'un, ou sur la démission de quelqu'un, ou sur tout.
En France,
oui.
On peut parier là-dessus.
En France, peut-être pas, mais je veux dire en Angleterre, donc ça arrivera un jour en France.
Bien. Il n'y a pas de frontières sur Internet. Vous pouvez parier sur un système qui se trouve sur une législation qui permet ça ailleurs qu'en France. Ouais. C'est le principe même du numérique. Il n'y a plus de frontières. Donc là-dessus, c'est clair. Pour ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que les opérateurs ne mettent pas en place un jeu pour simplement distraire les gens. Il y a quand même un pas du gain à l'extérieur qui est absolument important. Lorsque vous vendez un objet matériel dans une boutique, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas simplement pour habiller les gens.
Mais sinon, c'est comme si on disait que Disney, que Disney n'a des parcs d'attractions ou ne fait des films que pour distraire les gens. Oui, le divertissement, c'est une valeur de Disney, mais il y a un business model qui est derrière. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les leviers, parce qu'on va peut-être parler de la publicité, de la communication, sont exactement les mêmes que dans d'autres catégories. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des archétypes. Donc, par exemple, vous avez entendu parler de cette campagne d'héroïsation du jeune qui est le héros de sa communauté, qui est porté en triomphe devant les jeunes. Donc il y a la glorification de l'individu. Ça, c'est une valeur dominante d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension aspirationnelle en fait, de la communication de ces sites. Et puis, il y a une dimension communautaire extrêmement forte, c'est-à-dire l'appartenance. Donc en fait, on joue sur des leviers anthropologiques, c'est-à-dire des éléments de l'idéologie dominante.
Alors,
ça fonctionne.
On est en ligne avec un parieur professionnel. On va lui demander son avis. C'est David Tenrel. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes fondateur d'un blog, hein, Parieur Pro. Vous êtes expert en pronostic football et en suivi de tipsters. C'est quoi ça, un tipster ?
Alors, un tipster, c'est très simple. C'est une personne qui va proposer ses pronostics parce qu'en fait, trouver soi-même de bons pronostics, parfois ça peut s'avérer un petit peu difficile de trouver de bons paris. Et un tipster, ça va être une personne dont le métier, alors il peut faire ça à temps partiel ou même à temps plein, comme un véritable métier.
C'est un consultant,
Oui, c'est un consultant, oui, tout à fait.
Et pour revenir à la question que je posais tout à l'heure en début de débat, combien vous arrivez à gagner, à remporter, par mois, par semaine ou par an ?
Ah ben alors là, c'est assez variable en fait. On a une sorte de, on va dire qu'il y a la variance dans les paris sportifs, c'est-à-dire qu'il y a une part de chance, un petit peu comme un joueur de poker professionnel. Il ne va pas forcément gagner tous les mois la même chose, ou tous les ans la même chose, donc c'est assez variable, mais c'est quelques milliers d'euros chaque mois, en moyenne sur une année. Quoi.
Oui, sur une année ?
Oui, c'est ça.
Par mois, donc 12 000 euros à la fin de l'année ?
Ah non, un peu plus quand même, ça dépend, ça va être une fourchette entre 10 et 50 000, ça dépend.
C'est un salaire de consultant.
Oui, c'est un salaire de consultant.
Intéressant ce témoignage, oui. Julien, parce qu'on a affaire au contre-exemple absolu, c'est-à-dire on a affaire à quelqu'un qui sait pourquoi il va en ligne, pourquoi il parie, et qui a une entreprise dans laquelle il a les dépenses et les profits et les recettes, il sait s'arrêter. Il ne va pas dans une espèce de faux plaisir comme décrit, mais il y va pour quelque chose de bien précis. C'est vraiment le contre-exemple du risque lié à la consommation, alors qu'on lui présente du plaisir et qu'il n'en est pas vraiment. Oui.
David, vous pariez sur quoi, vous, majoritairement ? C'est plutôt le poker en ligne ? C'est plutôt les paris hippiques, les sportifs ? Et si oui, quel sport ?
Alors non, moi c'est plutôt le football principalement. Le poker, c'était mon ancien métier. Avant, j'étais joueur de poker professionnel et les techniques pour gagner au poker sont très similaires à celles pour gagner au pari sportif. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon métier de parieur sportif aujourd'hui.
Attendez, comment ça, les techniques sont les mêmes ? Le poker, c'est un jeu de cartes,
c'est la probabilité.
Sportif,
Il y a énormément de similitudes entre le poker et les paris sportifs, et même avec le trading en bourse, en plus. On va être dans une constante recherche de ce qu'on appelle une situation qui est value. Donc au poker, l'idée, ça va être de trouver des situations qui rapportent de l'argent sur le long terme. Et dans les paris sportifs, la technique pour gagner sur le long terme, c'est exactement la même. L'objectif pour un parieur, chevronnée, on va dire. Oui. Ça va être de trouver des cotes qui sont mal ajustées par le bookmaker.
D'accord, mais donc c'est vous faites de l'analyse de probabilité et de data. Vous ne pariez pas sur votre club de cœur, par exemple.
Exactement. C'est voilà, parier sur son club de cœur, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Ah bon, évidemment. Bah dites donc, c'est un peu triste, ça.
c'est dommage. Ou alors juste pour le plaisir. On sait que c'est pas dans le but de gagner sur le long terme. C'est juste dans le but de se faire plaisir, ça c'est tout à fait possible. Mais là, on est vraiment dans le domaine du parieur récréatif.
Okay. Et moi,
j'ai une question, c'est est-ce que par ailleurs, vous avez une activité, est-ce que par exemple, comme Patrick Bruel, en plus du poker, vous poussez la chansonnette ou vous faites de l'huile d'olive uniquement là-dessus?
Réponse courte, David.
Comment?
Réponse courte, allez-y.
Alors non, ben, je ne vais pas me mettre à la chanson pour l'instant, je crois que ça ferait du mal à beaucoup de personnes. Donc je vais en rester juste au pari sportif pour l'instant.
Merci en tout cas pour votre témoignage, on continue d'en parler avec nos invités, à tout de suite, 19h39.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, on poursuit le débat sur les paris sportifs, la folie des paris en ligne qui affiche, je le disais, des niveaux records sur l'année écoulée, le sportif, paris hippique et puis le poker en ligne. On est toujours avec nos invités, notamment Benoît Elbrun, professeur de marketing à l'ESCP Business School, auteur de Je Consomme. Question pour vous sur le modèle économique de ces plateformes. Vous évoquiez tout à l'heure la publicité. Alors, il y a évidemment les paris sur lesquels les plateformes prennent des commissions. Et puis, il y a le marché de la publicité en ligne. Ça, c'est un gros vecteur de revenus.
C'est-à-dire que, en fait, il y a deux choses dans votre question. Il y a le modèle économique qui est fondé sur le fait qu'on a très très peu de chances de gagner. Donc, de toute façon, l'annonceur va remporter la mise. Puis après, il y a le modèle publicitaire, le modèle marketing, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est fondé sur des archétypes et des pulsions extrêmement narcissiques. C'est-à-dire ce désir en fait, qu'a créé une marque comme Nike de faire en sorte que chacun puisse devenir le héros du coin de la rue. Et en fait, on reprend cette rhétorique, sauf qu'on ne vend pas des chaussures, on vend de l'espoir. Et pas plus que l'Église catholique.
Je ne sais pas si l'analogie est juste, mais c'est la raison pour laquelle les sociétés de Paris font appel à des grandes stars. Je pense à Unibet, partenaire du PSG, qui met en scène Kylian Mbappé et Neymar. Il y a aussi des rappeurs, il y a aussi des influenceurs très populaires, qui est ambassadeur de Winamax.
Donc ce sont des outils de légitimation, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que dans certaines campagnes, en fait, on voit qu'il y a une comparaison implicite qui est faite entre le joueur qui joue et celui qui joue sur le terrain. Et d'ailleurs, il y a une marque qui est utilisée comme slogan, il plante des buts, tu récoltes du blé, ou quelque chose comme ça. Donc ce qui veut bien dire que dans la fabrique du héros, qui est le consommateur, on va utiliser l'analogie avec le sportif.
Ça, c'est un vrai danger, ça, Amine Benyamina, vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Broussard. C'est un vrai danger, ça.
Le danger, c'est dans cette masse globale de gens qui sont intéressés par le jeu et qui sont fascinés par des héros, les héros modernes, il y a des personnes vulnérables. On l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes jeunes, d'abord, vulnérables, parce que le contexte fait qu'elles vont commencer à consommer encore plus parce qu'elles sont enfermées à la maison, parce que l'accès est facile. Elles vont mentir sur leur âge, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a quand même un rajeunissement des joueurs en ligne. Et puis, tout est joué en ligne. Donc, forcément, dans cette masse, on va avoir des gens qui vont être des dénaufragés, finalement, du jeu. Le plaisir se transforme assez rapidement en prison.
Il y a des publics qui sont plus à risque que d'autres sur le caractère de l'addiction.
Complètement, il y a des publics. Les personnalités un peu renfermées, pour parler, pour que tout le monde comprenne. Les jeunes, les problématiques de type narcissique, les subdépressions, les anxiétés, et des personnes qui deviennent des héros derrière l'écran, en quelque sorte. Donc, elles peuvent avoir des facteurs de vulnérabilité. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut avoir, dans le cadre
facteur
des addictions...
Facteur social aussi, je crois.
Bien sûr, moins on est argenté, et plus on a des risques de tomber dans le jeu.
Parce que moins on gagne d'argent, plus on est tenté de jouer à ces jeux.
On n'a rien à perdre.
Absolument, on n'a rien à perdre. Et puis, c'est l'espoir du big win, le grand gain. Et donc, on se retrouve aussi à avoir des choses qui sont souvent associés à ce type de pratique, c'est la consommation des produits. On a le jeu qui est une addiction sans produit, et on a la cigarette, on a l'alcool, et puis on peut avoir ce type de problématiques qui viennent se rajouter au risque à la fois financier et des insertions sociales.
Alors, on va peut-être donner la parole à Emmanuel de Rohan-Chabot, président fondateur de The Turf et The Bet, qui va répondre sur ce point. Que pouvez-vous répondre, Emmanuel de Rohan-Chabot?
Alors, sur un certain nombre de points. D'abord, en France, on ne peut pas jouer sur tout. On peut faire du pari sportif, du pari hippique, du poker. Et pour chacun de ces secteurs de jeu, il y a un encadrement extrêmement strict fait par l'ANJ. C'est probablement le pays au monde où l'offre de Paris est la plus étroite pour éviter des phénomènes de surjeu d'une part et puis pour éviter de faire jouer les gens sur des compétitions qui pourraient être manipulées, etc. Et ça n'est pas vrai de dire qu'en France, on peut aller facilement jouer sur n'importe quel site à l'étranger puisque vous avez toujours cette autorité qui bloque l'accès au site étranger.
Oui, oui.
Et qui donc protège. Et il y a un vrai travail de cette autorité des jeux. Et sur la publicité que vous évoquiez, et oui, il peut y avoir des publicités qui ont le tort de viser des publics particulièrement fragiles ou particulièrement jeunes. Si je vous parle de The Bet, la moyenne d'âge en paris sportif des joueurs de The Bet, elle est de 30 ans. Donc il faut pas non plus fantasmer sur le fait que ce soit forcément des gens très jeunes. En paris hippique, elle est d'ailleurs plus âgée, elle est de 45 ans. Et l'autorité nationale des jeux encadre et a acquis des nouveaux pouvoirs dans le cadre des lois qui ont été votées l'année dernière.
Oui.
Elle a acquis des nouveaux pouvoirs de contrôle de la publicité des opérateurs qui sont en train de se mettre en place pour éviter les comportements déviants que décrivent vos deux autres intervenants. Oui, il peut y avoir des comportements déviants dans ce métier. Mais un des intervenants disait qu'on vendait de la distraction, mais qu'on la vendait, que c'était un modèle économique. Oui, bien sûr, c'est un modèle économique. Un patron de restaurant, il gagne sa vie en vendant des repas. Un patron de cinéma, il gagne sa vie en vendant des places de cinéma. Et un patron de site de jeu, il gagne sa vie en vendant une distraction qui s'appelle le jeu. Bien sûr, c'est un modèle
économique. Alors, merci pour ces précisions. Vous restez avec nous, c'est important de le rappeler. Merci d'avoir répondu. Je voudrais, pour qu'on comprenne bien aussi quand même, parce que c'est vrai que c'est un sujet de société important, le mécanisme addictif, donner la parole à un nouveau témoignage. Florian Léglise qui est avec nous. Bonsoir Florian.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir, vous avez 28 ans, vous résidez du côté de Bordeaux et vous êtes suivi par le comité d'études et d'informations sur la drogue et les addictions, alors, qui est une association de loi 1901 fondée en 72 à Bordeaux. Alors pourquoi vous êtes suivi? Parce que vous faites partie de ces jeunes qui sont devenus addicts aux jeux en ligne, c'est cela?
Non, aux jeux en point de vente.
En point de vente?
Point de vente, bureau de tabac uniquement.
Comment s'est fait ce mécanisme d'addiction? Est-ce que vous l'avez vu venir?
Alors, je ne l'ai pas du tout venu venir. Au départ, j'ai joué pour m'amuser, en point de vente, pour me distraire, voilà, pour me trouver une distraction. J'ai fait la plus grande erreur, c'est d'avoir gagné.
Ah oui.
Quelques euros, j'avais gagné 1000 euros.
Ah oui. Oui. Et le point de bascule de l'addiction, vous l'avez vu arriver à quel moment?
C'est quand on n'a plus rien à perdre et que surtout, on s'est dit une fois, ça a marché pour 1 euro, qu'est-ce que ça va donner si je mise 10, 50 ou 100 euros?
Et aujourd'hui?
Alors forcément, à un moment donné, on regagne. On regagne 300 euros, 400 euros. Mais par contre, pour les gagner, ces 300 euros-là, on en a déjà perdu 4 ou 5 000.
Vous avez perdu beaucoup d'argent au total?
J'ai perdu environ 12 000 euros.
12 000 euros.
En 10 ans.
Bien. Merci Florian. Je suis désolé, il nous reste peu de temps. Je voudrais faire réagir Amine Benyamina sur ce témoignage. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans l'addiction? Alors vous allez me dire, la meilleure solution, c'est de ne pas jouer. Mais quand on a envie d'essayer un peu, comment faire pour ne pas tomber dans l'addiction?
De toute façon, quand on propose des choses comme ça, c'est pour les essayer en quelque sorte. Non, pour ne pas tomber dans l'addiction, il faut avoir d'abord une petite idée sur des facteurs de vulnérabilité. C'est l'isolement, c'est la dépression, l'anxiété. Et puis des personnes qui peut-être ont eu dans leur passé un rapport à l'objet ou un rapport au comportement qui déjà était un rapport d'assuétude, c'est-à-dire assez rapidement, on se retrouve à refaire la même pratique. Ce qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas le jeu finalement, ou le gain pardon, qui va configurer finalement celui qui sera ou non quelqu'un qui va répéter, qui va devenir addict. C'est tout ce qui est avant, c'est-à-dire c'est toute excitation, cette stimulation qui précède finalement le résultat. Que vous gagnez ou non, il y a d'une certaine manière, une répétition qui est inscrite dans le comportement. Si on perd, on se refait. Si on gagne, on va de nouveau retenter.
C'est exactement
retenter.
Ce que disait ce monsieur. Vous jouez en ligne, Benoît Elbrun?
Non.
Vous jouez tout court ou pas?
Pas du tout.
Bon.
Il n'est pas joueur.
Non, pas joueur. Merci en tout cas à tous les trois. Pardon, on est obligé de s'arrêter là. Le temps qui nous était imparti est terminé. On pourrait continuer évidemment de longues minutes. Merci pour ces explications et pour ce décryptage.
Europe 1. Écoutez le monde changer.